Shalom tout le monde. Nous avons commencé la dernière fois, je crois, une étude d'un texte de Rosh Hashanah, Maseret Rosh Hashanah, sur la fête de Rosh Hashanah. Et j'avais cité un texte dont vous n'aviez pas la photocopie. Depuis, les choses ont évolué. Et vous avez la photocopie devant vous. Alors, le texte est tiré du Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah. Hein? Il n'y a pas de texte? J'en ai donné combien? J'en ai donné quelques-uns. Alors, vous allez devoir donc faire preuve de fraternité. Vous allez devoir faire preuve de fraternité et consulter ensemble le texte. Voilà. Le texte s'étend sur deux pages, l'un sur Daf Yud Amud Bet et l'autre sur Yud Alef Amud Alef. Mais c'est-à-dire la page 10b et la page 11a. Mais le texte tiré de la page 10b ne fait que 5 lignes, donc il a été coupé au ciseau et collé sur le haut de la page. Vous voyez? Donc en fait, vous avez l'impression que ça fait partie de la page Yud Alef Amud Alef, mais en vérité, les 5 premières lignes sont les 5 dernières lignes de la page précédente. Voilà. C'est du rafistolage. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de duperie, alors ça, on voit que ça n'a pas été bien collé pour que vous puissiez faire la différence. Voilà, c'est exprès. Donc, c'est-à-dire que la maison ne recule devant aucun sacrifice. Donc, vous avez devant vous le texte que nous avons commencé la dernière fois. Tania Rabbi Eliezer Omer. On a enseigné que Rabbi Eliezer disait Betishri Nivra Haolam. C'est en Tishri que le monde a été créé. Betishri Noldu Avot. C'est en Tishri que les ancêtres, les patriarches sont nés. Betishri Metu Avot. C'est en Tishri que sont morts les Avot. Befesar nolad Yitzhak, c'est à Pesar que Yitzhak est né. Berosh Hashanah nifkeda Sarah, Rachel et Chana. C'est à Rosh Hashanah qu'ont été exaucés Sarah, Rachel et Chana. Berosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah, Yatsa Yosef imbeta Asurim, que Yosef est sorti de prison. Jusque-là, c'est de la page précédente. Berosh Hashanah, batla avoda mavotenu bemitzraim. C'est à Rosh Hashanah que nos ancêtres ont cessé leur labeur en Égypte. Benissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Betishrei Atidim Leigael, c'est en Tishrei qu'ils seront délivrés. N'est-ce pas? Ça, c'est l'opinion donc de Rabbi Eliezer. Vous avez remarqué que Rabbi Eliezer fait l'effort de concentrer le maximum d'événements importants en Tishrei, à l'exception de la naissance d'Yitzhak qui est obligatoirement à Pessah. Et de même, la sortie d'Égypte qui s'est produite en Nissan. C'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Mais c'est en Tishri qu'ils seront libérés. Donc vous voyez que, à l'exception de deux événements seulement, tous les événements importants de notre histoire sont en Tishri. Oui. Toi, d'accord. Rabbi Yoshua Omer, par contre, Rabbi Yoshua dit le contraire. Benissan Nivra Olam, c'est en Nissan que le monde a été créé. Benissan noldu avot, benissan metu avot. C'est en Nissan que sont nés les patriarches qu'ils sont morts. Le Pessah nolad Yitzhak, c'est à Pessah que Yitzhak est né. Jusque-là, donc, il met le plus possible d'événements en Nissan. Berosh Hashanah nifkeda Rachel vechana, Berosh Hashanah yatsa Yosef bet Asurim, Berosh Hashanah batla avodam avotenu bemitzrayim. Là, il y a une concession. C'est à Rosh Hashanah que Sarah, Rachel et Chana ont été exaucés, que Yosef est sorti de prison et que le labeur de nos ancêtres a cessé en Égypte. Là, il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Benissan Igalou, c'est en Nissan qu'ils ont été sauvés. Benissan, Atidin et Igael, c'est en Nissan qu'ils seront libérés. Donc, à l'exception de trois événements, tout se passe en Nissan pour Rabbi Yehoshua. Donc il y a un tropisme tishrien et un tropisme nissanien. Alors vous vous rappelez qu'on avait étudié ça la dernière fois, on avait parlé de la manière de commencer l'année. Quand est-ce que l'année commence? Est-ce qu'elle commence en automne, tishrei, ou est-ce qu'elle commence au printemps, en nissan? Et que ça représente deux conceptions de l'histoire et donc du monde en général. Est-ce que l'histoire du monde est pessimiste ou optimiste? Si elle commence en automne, c'est qu'elle est pessimiste. Si elle commence au printemps, c'est qu'elle est optimiste. Et on avait vu que ça correspondait en fait à deux manières de concevoir l'histoire, qui sont celles des goïms et celles d'Israël. Les goïms ont une tendance à considérer l'histoire comme pessimiste, c'est-à-dire que, comme disait Paul Valéry, les civilisations se savent mortelles, tandis que les juifs considèrent l'histoire de manière optimiste, c'est pour ça que, parce que nous nous savons éternels. nous savons éternel, et donc ça nous permet de transcender l'histoire, de traverser l'histoire des nations qui disparaissent, en étant une sorte de mémoire de l'histoire qui progresse. Voilà, jusque-là, c'est bien clair. Donc, s'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua pour savoir quand est-ce que le monde a été créé, s'il a été créé en Nissan ou en Tishri, alors ça veut dire que le débat est de savoir qui c'est qui a raison. Est-ce que c'est les Goïms qui ont raison ou est-ce que c'est les Juifs qui ont raison? Si on dit, comme Rabbi Eliezer, que le monde a été créé en Tishri, ça veut dire que c'est les Goïms qui ont raison et que l'Israël a tort. Tandis que pour Rabbi Joshua, c'est le contraire. Le problème de savoir qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Joshua? Difficile à savoir. Oui. Oui. Alors qui a raison? Ah bon? Pourquoi tu dis que c'est anti-chéri? C'est-à-dire que Rabbi Eliezer a raison, Rabbi Joshua a tort. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Pourquoi il a tort? Comment tu sais que c'est Rabbi Eliezer qui a raison? Sur la base de quoi tu dis une chose pareille? Il faut savoir établir ses preuves. C'est qu'on l'a dit la dernière fois. Ah non, je nie totalement, je n'ai pas dit ça la dernière fois. Oui, vas-y. Des malachim, des anges. Malachim, les malachim n'ont pas de Rosh Hashanah. Ah, les melachim, d'accord. Les melachim, les rois, c'est ça, oui. Oui, d'accord, mais ça, ils le savent très bien. Qu'il y a Rosh Hashanah pour les rois, Rosh Hashanah pour les années, etc. Il faut même savoir qui c'est qui a raison à propos de la création du monde. C'est ça que je voudrais savoir. Tu dis que c'est Rabbi Joshua qui a raison, et tu dis que donc le monde a été créé en Nissan, et donc Rabbi Eliezer a tort. Sur quoi tu te bases pour dire une chose pareille? Oui, ça c'est vrai que Rosh Hashanah, ce qui est vrai, et ça tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Joshua, que l'année juive commence en Nissan. Tu voudrais savoir quand est-ce que le monde a été créé. C'est ça que je veux savoir. Rabbi Eliezer dit qu'il a été créé en Tishri, Rabbi Joshua dit en Nissan. J'aimerais savoir qui a raison des deux. Le monde, oui, la création du monde. En Nissan, sur quoi tu te bases pour dire ça?
Le monde ou l'homme?
Peu importe, le monde, l'homme. Tu dis qu'il a été créé en Nissan. J'aimerais savoir sur quoi tu te bases. Parce que Adam Arishon a été créé en Nissan. Comment tu le sais? On l'a dit. Qui c'est ça, le « on » qui l'a dit? Parce que « on » n'a pas le... Oui, Rabbi Fartouche a dit quoi? Parce qu'il a cité l'opinion de Rabbi Joshua. Est-ce que Rabbi Fartouche pense que Rabbi Eliezer a tort?
Non, je
ne
vais pas demander.
C'est quelqu'un de très grand, le Rabbi Fartouche. Mais est-ce qu'il a l'autorité de Rabbi Eliezer et de Rabbi Joshua?
Non, non.
Oui, je veux bien, mais disons comme ça, il faut vous habituer à une grande chose. Quand des maîtres de la dimension de Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua sont en désaccord, c'est que les deux ont raison. C'est un grand principe. C'est-à-dire, on ne peut pas, nous ne sommes pas du niveau de pouvoir trancher entre eux, mais ce que nous voulons savoir, qu'est-ce que chacun veut dire? À moins qu'il y ait, dans le débat du Talmud lui-même, une décision en faveur de l'un plutôt que de l'autre, dans l'ensemble, ce sont nos maîtres, et c'est eux qui nous disent comment lire la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut prendre cette habitude de savoir que c'est de nos maîtres que nous apprenons la Torah et ce n'est pas nous qui apprenons la Torah à nos maîtres. Vous avez compris? Bon, oui, tu veux dire quelque chose?
Vous aviez assigné la création du monde à la création de l'homme et de la
foi. Oui.
Et la création de l'homme correspond aussi au jour.
C'est-à-dire que l'homme aurait été créé le premier Tishri. Et donc, tu te bases sur mon enseignement contre Rabbi Joshua. C'est très flatteur pour moi. Mais est-ce qu'on est autorisé à prendre mon opinion contre celle de Rabbi Joshua? Oui, si on dit que le monde a été créé en Tishri, donc le 25 Elul est le premier jour. Si le monde a été créé en Nissan, c'est le 25 Adar qui est le premier jour. Ben oui, avec des si, d'ailleurs, on peut faire des tas de choses. On pourrait mettre le monde entier, par exemple, dans une gourde, par exemple. Hein? Voilà. Dans une gourde. Oui, on peut mettre le monde entier dans une gourde avec des scies. D'accord? Je ne sais pas pour vous, si c'est l'impression que ça me rappelle une autre expression en français, j'ai oublié. Bon. Oui, bon, alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que les Chachamim en question ont appris ce qu'ils ont dit. Alors, il y a ici tout un texte que nous n'avons pas étudié la dernière fois, que je vous invite à étudier avec moi. Tania Rabbi Eliezer Omer, vous y êtes? C'est quelque chose comme la ligne 10, 12, quelque chose comme ça. Tania Rabbi Eliezer Omer. Vous allez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La douzième ligne. Vers la fin de la ligne, écrit Tania. Vous avez vu? Bon. Tania Rabbi Eliezer Omer. On enseignait que Rabbi Eliezer disait. D'où savons-nous que le monde a été créé en Tishrei? Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Vayomer Elohim, et Dieu dit, Tache haaretz deshe, que la terre donne de l'herbe. Aesev, des plantes. Mazria zera, qui porte des graines. Aetz peri, des arbres de fruits. Alors ça veut dire quoi? Aetz peri, un arbre qui a déjà ses fruits sur l'arbre. Quelle est la saison de l'année où les fruits sont sur l'arbre? Au printemps.
Non, c'est en été.
En été. Ça dépend des arbres. Nous avons pour l'instant trois réponses qui sont proposées. Ceux qui disent au printemps, ceux qui disent en été, ceux qui disent ça dépend des arbres. Alors voyons ce que dit la Gemara. Ezeu Chodesh, quel est le mois? Chez Aaretz Mutzia Deshaim, où la terre donne de l'herbe. Ve'ilan maleperot, et que l'arbre est rempli de fruits. Shvat, c'est une possibilité. Mais là, j'ai une grande idée. J'ai reçu de mes maîtres un principe qui est que pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Et donc, étant donné que nous avons devant nous la Torah, je propose qu'au lieu de faire des devinettes, nous lisions ce que dit le texte. Hein, c'est une bonne idée? Hein, ça se tient, n'est-ce pas? Bon, donc, Ezeu Chodesh Haaretz Mutzia Deshaim Vilan Maleperot, quel est le mois où la terre sort des herbes et que l'arbre est plein de fruits? Eve Omer Zetishrei. C'est donc le mois de Tishrei. Voilà. Non, Tishrei, ce n'est pas le printemps. Tishrei, c'est en automne. Oui, à peu près septembre. Voilà. L'automne, exactement. Veoto Aperek, et à ce moment-là, Zeman Revi'a Haïta. C'était le moment de la première pluie. Ve Yaredu Geshamim Ve Tzimchu. La pluie est tombée et ça a donné de l'herbe. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ve'ed Ya'ale Min Ha'aretz, une vapeur montait de la terre. Donc, l'argument de Rabbi Eliezer, c'est que tant que la Torah parle d'un arbre rempli de fruits, c'est donc que ça se passe en automne. C'est-à-dire que le monde est créé dans la situation de l'automne. Un arbre qui porte ses fruits. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y avait déjà des saisons? Est-ce que l'axe de la Terre était déjà incliné? C'était ta question. Rabbi Eliezer pense que oui. Est-ce qu'il y avait déjà le soleil? Rabbi Eliezer pense que oui. C'est le même schéma qu'on utilise maintenant qui était valable à l'époque. Rabbi Eliezer pense que oui. D'accord? Maintenant, si tu poses la question la quatrième fois, tu auras une réponse inverse, parce que je vois que les trois premières réponses ne te plaisent pas. Bon. Rabbi Yehoshua Omer, tandis que Rabbi Yehoshua disait, Minayin chez Benissan Nivra Olam, d'où savons-nous que c'est en Nissan que le monde a été créé? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vatotse Haaretz Deshe, la terre donna de l'herbe, Aesev, des plantes, Mazria Zera, porteuse de graines, Ve'aetz, Rose Peri, un arbre qui fait des fruits. Ah, s'il fait des fruits, c'est que les fruits ne sont pas encore mûrs. Ils sont en train de se faire. Ezeu Chodesh, Shearetz Mila Deshaim, Veilan Motsi Perot, quel est le mois où la terre est pleine d'herbes et que l'arbre fait sortir les fruits? Et Veomer Zenissan, c'est donc le mois de Nissan. Veoto Aperek, à ce moment-là, Zman Behema Vechaya Verov Shimizdabgim Zeetzelze, c'était le moment où les animaux s'unissent l'un à l'autre, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, la Veshou, Karim, Hatson, etc. Et on amène un verset. Donc, chacun s'est basé sur un autre verset. Le Rabbi Eliezer s'est basé sur le verset qui nous dit « Etz Peri » et Rabbi Yehoshua s'est basé sur le verset qui nous dit « Etz Ose Peri ». L'un décrit un monde automnal, l'autre décrit un monde printanier. Donc chacun a sa source. Hein? C'est quand même marrant cette histoire. Il y a les deux versets dans la Torah, non? Oui, mais dans la Torah, il y a les deux versets. Alors, Rabbi Eliezer, on peut lui dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais du verset de Rabbi Yehoshua? Et Rabbi Yehoshua, on dit, qu'est-ce que tu fais du verset de Rabbi Eliezer? Vous avez compris le problème? Autre chose, si vous regardez bien dans le texte de la Torah, le verset cité par Rabbi Eliezer, il désigne quoi? Le moment où Dieu annonce ce qui va se passer. N'est-ce pas? Et Rabbi Yehoshua, le verset qu'il amène, c'est le verset où Dieu a fait concrètement ce qui s'est passé. Ça veut donc dire qu'il y a un idéal et une réalité, que ce n'est pas la même chose, que dans l'idéal, c'est comme Rabbi Eliezer, que dans la réalité, c'est comme Rabbi Yehoshua. Bizarre, non? Ça veut donc dire qu'en fait, chacun se réfère à un autre niveau d'être. Rabbi Eliezer voit le monde tel qu'il est, tel qu'il doit être, et le monde tel qu'il doit être, c'est le monde d'automne. Et Rabbi Yehoshua voit le monde tel qu'il est en réalité. Et en réalité, c'est le monde du printemps. Et donc le problème de savoir, merci, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a fait le monde idéal ou le monde réel? C'est là le problème. Alors, qui c'est qui a dit le monde réel? C'est-à-dire que vous décidez à la place des Tanaïm. Vous n'avez donc toujours pas compris le principe, qui est que pour savoir que c'est nos maîtres qui nous enseignent la Torah, et que ce n'est pas nous qui enseignons la Torah à nos maîtres. Donc, si Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ont décidé d'être en controverse, ce n'est pas nous qui allons trancher entre eux. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Rabbi Eliezer, lui, décide, lui, il comprend que si Dieu a créé un monde, il l'a créé selon l'idéal. Et donc, ce qui s'est passé dans la réalité, c'est postérieur à l'action de Dieu. Tandis que pour Rabbi Yehoshua, Dieu, dès le départ, va selon le réel et pas selon l'idéal. Dès le départ, oui, lors de la création du monde. C'est-à-dire, la création du monde se fait en printemps. C'est-à-dire dans le monde réel, pas dans le monde idéal. Ouh, c'est bien clair ce que je dis là? Hein? Mais si vous voulez, c'est un peu le fondement des débats entre Beth Hillel et Beth Shammai. Vous avez entendu parler de Beth Hillel et de Beth Shammai?
Ouais.
Dans la Mishnah, nous avons deux grands maîtres, Hillel et Shammai, qui, après, ont fondé des écoles, qu'on appelait l'école de Hillel et l'école de Shammai, en hébreu, Beth Hillel et Beth Shammai. Et l'opinion de Shammai est en général plus rigoureuse, et celle de Hillel est en général plus facile. Il y a des choses que Shammai interdit, que Hillel autorise, de même pour Beth Hillel et Beth Shammai. Il est plus cool, n'est-ce pas? Et Shammai, ça ressemble à un mot en hébreu que vous connaissez peut-être. Shamaïm, le ciel. C'est un céleste, Shamaïm. Et Hillel, ça ne vous rappelle pas un autre mot en hébreu? Hallel, la louange, c'est ce qui vient d'en bas. C'est-à-dire qu'à nouveau, vous avez chez les Chachamim des références à des niveaux d'être différents. Soit l'idéal, soit la réalité. Voilà, c'est toujours ciel et terre. Donc problème de halakha, qu'est-ce qu'on fait? On fait selon le ciel ou est-ce qu'on fait selon la terre? En général, on va selon la terre. Ce qui fait que la halakha semble être comme Rabbi Yehoshua. Oui, vas-y. Parce que le Hallel, c'est une initiative qui vient de la créature. La louange. Non, la louange vient d'en bas. C'est-à-dire, la seule chose que Dieu ne peut pas faire à ma place, c'est de dire merci. Il peut tout me donner, sauf une seule chose, le remerciement. D'accord ? La gratitude. La gratitude, c'est l'expression absolue de l'humain. C'est-à-dire, l'homme, en tant que particulier, ce qui fait que l'homme est un homme, c'est qu'il est capable de gratitude. Ça a des conséquences très importantes au niveau du Hallel, par exemple, de Yom HaAtzmaut, et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est un sujet d'étude auquel nous arriverons plus tard. En tout cas, il y a une autre interprétation qui est amenée dans le Midrash, que la Gemara ne cite pas, mais qui est en filigrane derrière tout ce qui est dit là. Quand on dit « Et Peri », alors, comment est-ce que Rabbi Eliezer a compris le mot, l'expression « Etz Peri » l'arbre, fruit. Alors, il a compris que ça veut dire un arbre sur lequel les fruits sont déjà là, qui portent ses fruits. Tandis que Rabbi Yoshua comprend Etz Oseperi, l'arbre qui est en train de préparer ses fruits, c'est le printemps. Mais selon le Midrash, que la Gemara connaît, il y a autre chose. L'arbre fruit, ça veut dire un arbre dont les branches ont le goût du fruit. Par exemple, la réglisse. Comment ? Si, bien sûr. La réglisse est un arbre. Oui, avant, ça se vendait souvent. Il y avait des bâtons comme ça. Ça se vend encore ? Dans les pharmacies, ça se vend. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas produit par les pharmacies, c'est produit par un arbre. Ouais. C'est-à-dire que le lait, par exemple, ça vient des vaches. Je ne sais pas si vous savez. Ça vient pas des sachets de plastique. Voilà. Bon, en tout cas, ça veut dire quoi que l'arbre a le goût du fruit. Vous savez que quand un arbre, c'est extrêmement frustrant. Vous avez déjà fait pousser des arbres, vous ? Oui, oui, d'accord, ça fait pousser des... Mais non, le but de l'arbre, c'est le fruit. Mais c'est très embêtant parce que ça prend énormément de temps jusqu'à ce que le fruit arrive. On perd une énergie gigantesque pour les branches, les fleurs, les feuilles, les racines, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a dans notre monde une distance entre les moyens et la fin. Donc c'est un monde qui, dans la réalité, est problématique. Enfin, le goût de l'arbre n'est pas le goût du fruit. Ben, par exemple, je veux par exemple, je veux arriver à Tel Aviv. Bon, mon but c'est d'être à Tel Aviv, mais je dois prendre la route. La route en fait elle sert à rien, si je pouvais la raccourcir ça serait mieux.
D'accord.
C'est-à-dire, il y a des moyens et il y a la fin. Et en fait, ce qui est important c'est la fin, mais je suis obligé de passer par les moyens. Oui, alors si on pouvait avoir des fruits, on plante dans la terre, tchoup, on a une pomme, ça serait bien. Mais la pomme doit passer par le pommier. Et d'ailleurs, la pomme ne tombe pas très loin du pommier, en vérité. Tu vois, la pomme, quand elle tombe pas loin du pommier. Mais il y a quand même un pommier et une pomme. Sur quoi tombe la pomme, d'ailleurs ? Non, sur la tête de Newton, endormie en bas du pommier. Oui ? Bah oui. 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 Absolument. Ça veut dire que, quand tu dis l'esthétique de l'arbre, le plaisir de la route... C'est une recherche de donner une finalité au moyen. Donc tu cherches un goût au moyen. Oui, c'est très bien. C'est ça le tikkun. Le tikkun, la réparation. Oui. C'est-à-dire, c'est la différence qu'il y a entre un voyage et une excursion. Un tioul. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand je fais un voyage, par exemple, voilà, je veux, par exemple, me rendre à Tel Aviv. C'est pénible de devoir perdre du temps à la route. Je voudrais être là-bas. Mais si, par exemple, je fais une excursion, un tioul, alors le but, c'est la marche elle-même. N'est-ce pas ? Plus c'est long, mieux c'est. Hein ? Il faut mieux marcher. Quand on aime marcher, par exemple, on aime la promenade. Voilà, la promenade. Hein ? Dans la promenade, c'est le fait même de marcher qui est le but. N'est-ce pas ? Contrairement au voyage, où ce qui est important, c'est le but et pas le moyen. D'accord. Donc dans la promenade, il y a l'expression d'un monde sans conflit. Un monde dans lequel il y a un sens, même au moyen. Alors si vous voulez, c'est ça, d'après le Midrash, Dieu aurait voulu, à l'origine, que l'arbre ait le goût du fruit. Aetz péri. Mais dans la réalité, et ça c'est ce que dit le Midrash, est extrêmement fort, la terre a péché. Et elle n'a pas donné le goût du fruit à l'arbre. Il y a un péché de la terre. La terre a donné des arbres qui n'ont pas le goût du fruit. Le pommier n'a pas le goût de la pomme.
Hein ? Il y a pas longtemps, on nous a dit les animaux et la nature, ils ne pêchent pas.
Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Elle ne peut pas.
Mais l'homme et à 3 secondes, vous avez dit la terre.
Oui, j'ai dit à pêcher. Il y a remarqué que il y a une différence entre le passé et le présent. Ce sont deux temps différents. Exactement. Dans la langue française. La terre ne peut pas pêcher, mais elle a pêché.
Pourquoi lors de sa création ?
Oui, c'est-à-dire qu'au moment fondamental, au moment d'origine, il y a un péché. Il y a une chute. Mais aujourd'hui, la terre, elle est coincée. Elle est devenue nature inerte. Et donc, elle ne peut plus pêcher.
Mais donc, ça veut dire que Hachem, il a voulu créer le monde
C'est-à-dire qu'il y a eu un échec. Dès le départ, il y a un échec.
Non, mais ça veut dire que c'est bien ce que dit Rabbi Eliezer.
Rabbi Eliezer dit que le monde... Bet Shammai veut que la halakha soit selon l'idéal. Rabbi Eliezer dit que la création était selon l'idéal. Et qu'après, il y a eu une chute. Tandis que Rabbi Yehoshua dit que non, la chute était dès le départ. C'est-à-dire, il y a une différence entre le projet et la réalité. Dans la réalité, ça a été, dès le départ, c'était la chute. Avez-vous compris la différence?
Oui.
Bon, très bien. Maintenant, la question que va se poser la Guémara, c'est de savoir qu'est-ce que chacun fait du verset de l'autre. Alors, je reprends ici. Veidach Name. Vous avez trouvé? Non. C'est très embêtant que vous n'ayez pas trouvé. Vous voyez qu'il y a une ligne qui commence par le mot chez Nehemar, où il y a un petit dalet comme ça, avec une parenthèse. Un petit dalet avec une parenthèse après le mot chez Nehemar.
Oui, ouais.
Oui, c'est très bien. Alors, vous arrivez à la fin de la phrase. Veidach Name. Vous avez trouvé? Tu as trouvé? Non, je parle ici de la Guémara, c'est-à-dire la colonne centrale. La lettre, elle n'est pas en rachis, la lettre est en lettre carrée avec une parenthèse sur la gauche. Chez Nehemar, tu vois que la ligne commence par le mot chez Nehemar. Sur la droite, voilà, tu as trouvé? Alors, à la fin de la ligne, il y a écrit Veidach Nameha, n'est-ce pas? Veidach. Ah, Veidach Nameha, voilà. Alors, c'est de l'araméen, hein? C'est de l'araméen, bien qu'écrit en lettres hébraïques, c'est de l'araméen. Veidach et l'autre. C'est-à-dire quoi, l'autre? L'autre, c'est Rabbi Eliezer. Name, ha, lui, ha, en vérité, qu'est-il? Il est écrit. Et osé péri. Il est écrit que l'arbre donnait des fruits. Donc, c'est. Comment est-ce que Rabbi Eliezer va s'arranger avec ce verset-là? Ao, libracha, les dorot, odirtiv. Il répondra que ça a été écrit en tant que bénédiction pour les générations à venir. Veidach, Name, Haketiv, et l'autre aussi. Alors maintenant, l'autre c'est qui maintenant? Ça devient Rabbi Yehoshua. Haketiv, Aetzperi. Qu'est-ce qu'il fait lui du verset Aetzperi? Ahou, celui-là. Qui de Rabbi Yehoshua ben Levi? C'est pour satisfaire l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yehoshua ben Levi? Dehama, Rabbi Yehoshua ben Levi. Kol ma'aseh bereshit. Toute l'œuvre de la création, les komatan nivreu, ont été créés dans leur stature, les da'ata nivreu, selon leur volonté, les tsiviona nivreu, selon leur désir. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vaichullu hashamayim ve'aretz v'chol tsevaam, le ciel et la terre et toutes leurs armées furent achevées, al tikre tsevaam, il ne faut pas dire tsevaam, leur armée, et la tsivionam, mais leur volonté. Tsiviona. Tsivion, c'est un mot araméen qui veut dire volonté. Donc tsava, qu'on dit être l'armée, si on prend la racine araméenne, ça veut dire la volonté. En araméen, tsava, ça veut dire vouloir. Il y a des tas de raisons à ça, mais laisse tomber pour l'instant. C'est donc, quand on veut savoir, par exemple, comment ça se passe sur Terre, on dit comment ça va. Voilà. Donc, maintenant, remarquez ce que ça veut dire. Là, je voudrais rentrer plus dans le détail. Pour Rabbi Eliezer, qui voit le monde à la manière des Goïm, insiste sur l'aspect de la prédominance de la nature. Tandis que Rabbi Yehoshua, qui voit le monde à la manière d'Israël, insiste sur l'aspect humain et moral. Oui.
Rabbi Eliezer, c'est celui qui a travaillé avec son père.
Oui. Rabbi Eliezer, Ben Orkenos. Et vous allez voir que c'est très intéressant de voir que chaque verset qui est amené par Rabbi Eliezer donne la prédominance à la nature, et chaque verset amené par Rabbi Yehoshua donne la prédominance à l'humain. C'est-à-dire, on voit qu'il y a dans le monde une sorte de divorce entre deux sortes d'êtres. Il y a l'être du monde, il y a l'être de l'homme. C'est pas la même chose. L'être du monde fonctionne selon la nature, l'être de l'homme fonctionne selon la morale. D'accord ? Et donc, ce que Rabbi Yehoshua dit, c'est que le monde a été créé selon sa volonté. C'est-à-dire que Rabbi Yehoshua voit le monde entier comme étant le fruit d'une volonté libre.
Du
monde entier. C'est-à-dire que, c'est que le monde était humain à l'origine. Puisqu'on dit que la terre a pu pécher, ça veut dire que le monde à l'origine était humain.
C'est qui ça, c'est Rabbi Yehoshua?
Rabbi Yehoshua, évidemment. Regardez dans Rashi, c'est assez extraordinaire. Dans Rashi sur la droite, regardez le mot Leda'atam. C'est un peu plus haut. Vous voyez écrit Leda'atam dans Rashi? Vous avez trouvé? Qui n'a pas trouvé? Tu as trouvé maintenant? Leda'atam. Voilà, tu as trouvé. Leda'atam. Hein? Le monde a été créé, on lui a demandé son avis. Regardez ce que dit Rashi. She'alam im hafetim leibarot ve'amru hen. Il leur a demandé s'ils avaient le désir d'être créés, ils ont dit oui. Le monde. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu avait interrogé les patates douces, il leur a dit, est-ce que vous voulez être créés? Et les patates douces ont dit, oui, nous le voulons bien. D'accord? Imaginez, il y a certainement des êtres qui ont dit qu'ils ne voulaient pas être créés, qui n'ont pas été créés. Par exemple, les patates bleues, avec des rayures jaunes, eh bien, ces patates n'ont jamais été créées parce qu'elles ont dit non. Oui. Hein? Ah, alors ça veut dire quoi, une existence avant l'existence? C'est bizarre, ça. Ça s'appelle en français une préexistence. C'est-à-dire comme s'il y avait un monde idéal qui n'est pas dans l'existence, qui est dans l'idée. Et que Dieu s'adresse au monde idéal, et puis le monde idéal exprime sa volonté et devient réel. Pourquoi il n'existe pas? Ah oui, Dieu est, il n'est pas existant, c'est pas dans l'existence, évidemment. Oui, parce que dire de Dieu qu'il existe, c'est vraiment l'abaisser. N'est-ce pas? Tu as tout à fait raison. Ce qui fait que, par exemple, tous les problèmes de savoir si Dieu existe ou n'existe pas, ce sont des questions absolument absurdes, qui n'ont rien à voir avec Dieu. D'accord? Non, mais de là, on tire conclusion. Oui.
C'est vraiment passé comme ça. Tu l'as vraiment interrogé, enfin, c'est une image que Rachid.
Disons que c'est toujours très difficile de comprendre ce que veulent dire des choses à l'origine, à la source. Enfin, c'est comme ça que nous le comprenons. C'est-à-dire, je vais dire un truc tout simple. Est-ce que j'ai voulu vivre ou pas? Est-ce qu'on m'a demandé mon avis ou pas?
Non.
Qu'est-ce que tu en sais?
Enfin, moi, en tout cas, je ne me rappelle pas.
Tu t'en rappelles pas. C'est pas du tout la même chose. Parce que si vraiment c'est sérieux que nous n'avons pas voulu être là, alors c'est vraiment pas très sympathique de nous en vouloir. On doit donner des comptes, n'est-ce pas? La Mishnah est dit comme ça. La Mishnah dans Maseret Avot, Al-Kochacha Atanotsar, c'est contraint que tu es formé. Val-Kochacha Atanolad, c'est par contrainte que tu nais. Val-Kochacha Atachai, c'est contraint que tu vis. Val-Kochacha Atamet, tu es contraint de mourir. Val-Kochacha Atatil Tedin Vecheshbon. Et c'est contraint que tu devras rendre des comptes devant le tribunal d'en haut. C'est dégueulasse. Non, vous vous rendez compte? Non, c'est sûr, c'est pessimiste. C'est immoral, c'est injuste. Je n'ai pas demandé à jouer. On m'a obligé et maintenant je dois payer? Hein? On me force à payer. Mais c'est dégueulasse. Comment est-ce que vous ne vous révoltez pas? Votre conscience morale devrait se révolter contre une Mishnah pareille. Quand j'ai lu cette Mishnah, j'étais hors de moi. Comment? On ne m'a pas demandé et pourtant je dois payer? Si j'ai bien voulu jouer, d'accord, mais sinon non. C'est donc qu'il faut lire la Mishnah différemment. Ça veut dire qu'en fait, ce que dit la Mishnah, c'est que j'ai voulu. Mais je suis contraint à partir d'un moment. Al-Kochacha Atanotsar, tu es contraint d'être formé. C'est quoi la formation, la Yetzira? Selon le lexique des rabbins du Talmud, la Yetzira, non, c'est pas la naissance. C'est 40 jours après la fécondation. C'est-à-dire, il y a un moment, la fécondation, c'est quand le sperme et l'ovule se rencontrent, ça s'appelle la fécondation. 40 jours plus tard, il y a la formation du système nerveux. C'est pas encore un fœtus, mais enfin, disons, c'est la formation d'un embryon, un tout petit embryon. Et les Chachamim appellent ça dans la Gemara Rikum et Varim, c'est-à-dire le tissu des organes, mais disons, d'après les embryologues, ça veut dire le moment où apparaît le système nerveux. Et c'est à partir de ce moment-là, dit la Gemara, que tout est enclenché et tu ne peux plus revenir en arrière. Mais ça veut dire qu'auparavant, c'est moi qui ai bien voulu. C'est-à-dire, on m'a demandé, en fait, si je voulais bien m'introduire dans cet ovule fécondé. On m'a demandé. Et c'est exactement. Et comme j'ai bien voulu, Eh bien maintenant, je dois payer le prix. Cette volonté, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que j'ai voulu à l'époque. Mais j'ai bien voulu être moi-même. Et vous comprenez qu'on choisit donc d'être ce que nous sommes. À la limite, ça veut dire que j'ai choisi à quelle nation j'appartiendrai, dans quelle famille j'allais naître.
C'est nous qui choisissons.
Hein ?
C'est nous qui choisissons là-bas.
Exactement. Et donc, ça justifie rétroactivement la moralité du jugement. Mais non, si vous voulez, il y a même un indice de cela dans le texte de la Mishnah. La Mishnah dit, c'est par contrainte que tu vis. Ah bon ? C'est par contrainte que je vis ? Alors si on me demandait mon avis, qu'est-ce que je ferais ? Je ne vivrais pas. Hein ? Au moment de mourir, je ne veux pas mourir. C'est donc, non, je ne veux pas mourir. Ça veut donc dire que, rétroactivement, il s'avère que ce n'est pas contre mon gré que j'ai vécu. Et donc, je dois donner des comptes.
Vous avez compris ?
Hein ? Comment ? Accepter et vouloir, ce n'est pas la même chose. Accepter, oui. Oui, oui, mais accepter et vouloir, ce n'est pas la même chose. Hein ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai accepté de passer par une vie éphémère et tout le reste. Et donc, il y a, vous voyez ici une primauté, c'est très important, ce qu'on appelle la primauté de la volonté. C'est-à-dire, souvent dans la philosophie occidentale, on pense que la nature est primordiale. C'est-à-dire, on est dans un monde infernal. Il y a une loi de la nature, et puis on essaye de sortir de la nature par l'effort de la volonté, l'effort de la morale. Mais ce qui est plus fort en vérité, c'est la nature. Tandis que ce que dit ici la Guémara, c'est exactement le contraire. À l'origine, il y a une volonté, il y a même une volonté de la créature d'être créée. Et puis après, bon, ben, ça s'introduit dans un monde de nature. Mais à l'origine, il y a une volonté. Donc c'est le moral qui a la primauté sur la nature. Oui ?
Vous avez dit qu'on a quasiment choisi même quel peuple vous voulez appartenir.
Ben oui.
Donc, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas choisi le peuple juif ?
Ah, si pour nous, choisi dans quel peuple naître, on se rend compte que la majorité des âmes ont préféré être des goïms que des juifs. C'est donc que c'est beaucoup plus rentable d'être goï que juif.
C'est pas rentable sur cette terre.
Hein ? Plus que 60%. Il y a, disons, un juif sur 1000 sur terre, c'est-à-dire parmi les êtres humains qui sont sur la terre, un sur 1000 est juif. Vous êtes à 1,5. D'accord ? Donc ça veut dire que l'écrasante majorité des hommes ont préféré être des goyim. Ça veut donc dire que ça vaut mieux la peine. C'est-à-dire, si on fait un calcul froid, il vaut mieux être goy que juif. Mais alors pourquoi est-ce que nous sommes parmi ces fous qui ont décidé d'être juifs ? Eh bien, c'est par idéal. Maintenant, est-ce que c'est rentable d'être idéaliste ? La réponse est qu'un idéaliste ne se pose pas ce genre de questions. C'est-à-dire nous sommes habités d'une neshama idéaliste et elle en paye le prix maintenant. Voilà, vous avez compris ? Oui ?
Et ça veut dire que quand mes parents me disaient tu ne peux pas choisir ta famille, c'est faux ?
Tu ne peux plus choisir ta famille. Ouais, c'est trop tard. Okay. Ouais. Comme on dit, être juif, ça s'attrape à la naissance. Oui ? Oui. Non, le suicidaire ne veut pas mourir. Le suicidaire a un amour de la vie beaucoup plus fort que le reste des hommes, puisqu'il décide que l'état du monde, tel qu'il est, malgré tout le bien qu'il y a dans le monde, ne vaut pas la peine. Ça veut donc dire qu'il a une idée du bien encore plus forte. Parfois, il dit que le monde ne vaut rien. D'accord ? Ou bien que... Mais oui, ça dépend, il y en a qui ont... Oui. Mais même disons que si c'est par rapport à sa propre destinée, ça veut dire aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il se dit que la destinée humaine ne vaut pas la peine, enfin sa destinée à lui ne vaut pas la peine. Alors qu'en vérité, si on voit objectivement, il y a beaucoup de bien dans sa vie. Même chez celui qui est tellement malheureux. Et donc, ça veut dire qu'il a une idée du bien extrêmement éthérée, extrêmement forte. D'accord ? C'est-à-dire que c'est par amour de la vie que les gens se suicident. Oui, bien sûr, c'est très grave, mais je veux dire que ça s'avère que chez lui aussi, il y a un désir de vie. C'est ça que je veux dire. Et donc, il est coupable. Donc, il est coupable. Parce que si vraiment il n'avait pas le désir de la vie, il ne serait pas né.
Ah.
Il a voulu, bien sûr.
Ça veut dire quoi ? Il aime tellement le monde.
Oui. qu'il se dit dans cet état-là, ça ne vaut pas la peine. Hein? Il sait qu'il ne pourra pas réessayer. Je ne suis pas sûr qu'il pourra pas réessayer. Ça dépend s'il croit à la réincarnation. Pas tout le monde croit à la réincarnation.
La Torah est divine.
J'en sais rien, c'est pas notre sujet maintenant. Oui. À quoi? Ben c'est ce que dit Rashi là. Maintenant, je veux dire une chose. C'est Rashi qui nous enseigne la Torah, c'est pas nous qui enseignons la Torah à Rashi. Est-ce que je vis ça comme ça? C'est une question personnelle très intéressante. Pourquoi tu veux savoir comment ce que moi je considère les choses? Assurément, est-ce que je crois en la Torah ou pas? C'est pas une question intéressante. Ou est-ce que j'adopte l'opinion de Rashi? Parce qu'effectivement, il y a une autre manière de lire ce texte, c'est celle du Rambam. Mais je suis, comme j'ai décidé de vous enseigner ce que dit Rashi, c'est probablement que j'ai une sensibilité pour ce texte. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Adhésion. Je le comprends comme ça. Ça t'embête de le comprendre comme ça? Pourquoi c'est étonnant? Tu pensais que j'étais quelqu'un de très rationnel, et puis tu te dis, mais voilà, il croit en des folies. Hein? C'est pas vraiment de la magie. C'est la primauté de la volonté sur la nature. C'est pas de la magie. Je vais expliquer un peu ce que je veux dire. Il y a dans le monde, effectivement, quelque chose d'assez embêtant. On voit qu'il y a sur Terre des hommes, et que sur Terre, il y a des pommes de terre. D'accord? Il y a des pommes de terre et des hommes. C'est en grand. Hein? Bon. Je mets dans la classe des pommes de terre également la lune et les étoiles et les girafes. D'accord? Tout ça fait partie d'un seul monde. Et je vois d'un autre côté le monde de l'homme. Quelle est la différence entre les deux? C'est que les pommes de terre, elles fonctionnent selon la nature, ainsi que le soleil et la lune et les girafes. Tout cela fonctionne selon la nature. Et même en moi, d'ailleurs, il y a des éléments de nature, par exemple, je digère de manière naturelle. Mais je vois qu'il y a également en moi quelque chose qui ne s'explique pas par la nature, c'est la volonté. Le libre arbitre, la liberté que j'ai. Et qui fait que je ne suis pas quelque chose, mais que je suis quelqu'un. Je suis une personne. Alors, ça dépend comment comprendre ça. D'abord, au niveau de l'expérience, la personne n'est pas expliquée par la nature. Maintenant, on peut faire des théories. Alors, il y a plusieurs théories. Il y a une théorie qu'on appelle le positivisme. La théorie qu'on appelle le positivisme, qui a été inventée par un Français du nom de Auguste Comte, qui correspond à ce que tu dis. En fait, il n'y a que de la nature, et que même la personnalité, c'est en fait une illusion, mais en fait tout s'explique par la nature. Je suis une sorte de machine extrêmement élaborée, mais finalement je ne suis qu'une machine. Donc je crois que je suis quelqu'un, en fait je suis quelque chose. C'est ce qu'on appelle le scientisme. C'est pas scientifique, mais c'est du scientisme. Il y a ce genre d'opinion. Ça se retrouve beaucoup, par exemple, dans la littérature populaire scientifique, enfin, scientifico-populaire factice. D'accord? C'est-à-dire comme si tout s'expliquait, puisque je vois que les pommes tombent en fonction des lois de Newton, c'est donc que mes opinions aussi, c'est une sorte de pomme. D'accord? Et bien, c'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un se moque d'un autre, on dit « tu te fiches de ma pomme », par exemple. D'accord? Ça, c'est l'opinion d'Auguste Comte. D'accord? Comment? Oui, c'est comme ça qu'il voit le monde. C'est-à-dire que tout s'explique par la science. C'est-à-dire que tous les grands problèmes que nous posons, des questions de morale, des questions de métaphysique, tout ça, c'est explicable par le laboratoire. Viendra un jour où en laboratoire on t'expliquera d'où vient ta sensibilité artistique. Voilà. D'accord? Si, c'est une sorte de machine. C'est une machine de la nature. Une machine de la nature. Par exemple, de même que le chlorure de sodium, eh bien, c'est une sorte de machine. C'est-à-dire, c'est du chlore et du sodium qui se rencontrent, et ça donne du sel de table. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose de mécanique, si tu veux, de machinique. C'est ça qu'on appelle une machine. Maintenant, oui. Oui, c'est-à-dire quelque chose d'automatique, si tu veux, ça se passe tout seul. Tandis que L'opinion inverse, c'est l'opinion du paganisme. Le paganisme, ce qu'on appelle les idolâtres chez nous, les Ovdei Avodah Zarah, ils se sont dit comme ça. Moi, je suis une personne. Ça, je le sais. C'est donc que la pomme aussi est une personne. Il y a un esprit de la pomme. Et donc, quand je croque la pomme, en fait, il y a quelqu'un qui est croqué.
Il ne mange plus rien dans sa vie.
Si, il mange. Parce que c'est la guerre. Et donc, tout s'explique. Il y a donc... C'est pour ça que les idolâtres, par exemple, disaient qu'il y avait des dieux partout. Tu vois, le soleil n'est pas une fournaise. Le soleil, c'est une personne. C'est un dieu. C'est un dieu qui est habité d'un corps. Ils se parlent entre eux. Et donc, les dieux nous parlent, etc. C'est... Et d'ailleurs, on voit, on appelle ça dans l'animisme, ça se trouve aujourd'hui encore en Afrique noire, il y a ce qu'on appelle l'animisme. Il y a l'esprit de chaque chose, il y a l'esprit de la table, il y a l'esprit de la nuit, etc. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, c'est un collage de ce qui se passe en moi, je le donne aux autres. D'accord ? Et ça, c'est exactement le contraire. On peut appeler ça l'esprit magique, si tu veux. N'est-ce pas ? Et donc, il y aurait une manière de dire que tout est nature, ou bien que tout est humain, tout est personnel. Ça veut dire que, si, justement, si la table a un esprit, c'est une personne. C'est-à-dire que la table, c'est quelqu'un. Comment ? Une table avec un esprit. Oui, moi aussi, je suis un corps avec une personne. Oui, avec un esprit qu'on peut appeler une personne. C'est-à-dire, si je me prends sérieusement, je suis quelqu'un, pas quelque chose. N'est-ce pas ? Donc, il y a donc deux manières fondamentales de regarder le monde. Il y a une troisième manière, qui est de dire que, en fait, il y a l'homme et qu'il est personnel, et qu'il y a la nature et qu'elle est impersonnelle. Alors là, se pose le problème de savoir comment comprendre ça. Parce que si je veux, par exemple, des protéines, qu'est-ce que je fais ? Je mange un steak, d'accord ? Ou une escalope. Et si je veux des protéines, vous avez faim ?
Ouais.
Bon, alors ne parlons pas de ça. D'accord ? Maintenant, si je veux manger de la liberté, ça pousse où ça ? Ça pousse nulle part. C'est-à-dire, il n'y a pas sur Terre de production, il n'y a pas de produit dans la nature de liberté. Or, moi, je sens en moi que je suis un homme libre. D'où ça me vient ça ?
Ça
oui, alors il y a le libre arbitre, mais d'où ça vient ça ? C'est-à-dire, la nature n'a pas de libre arbitre. Les pommes de terre frites n'ont pas de libre arbitre.
Ça dépend
où est-ce qu'on vit. Alors, comment ?
Ça dépend où est-ce qu'on vit. Si on vit en Syrie, on n'est pas un homme libre.
Si, on est toujours un homme libre. Même sous un régime totalitaire, l'homme a le libre arbitre.
L'éducation ?
Alors, mais oui, mais l'éducation, c'est facile de dire. L'éducation. Mais d'où est-ce que ça vient ? D'où est-ce que l'idée de liberté même est apparue dans le monde ? Elle ne veut pas apparaître. Si tout est nature, s'il y a une loi de faire qui domine tout, alors le fait que je suis un homme libre, ce n'est pas quelque chose de possible. N'est-ce pas ? Vous avez compris le problème. Et donc cette dualité a créé énormément de systèmes de pensée chez les hommes. Alors il y a entre eux, alors il y a justement cette tentative que tu as dit tout à l'heure, tout est explicable par la nature. C'est ce qu'on appelle éliminer la question, éliminer la réponse en disant qu'il n'y a pas de question. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un divorce entre l'être humain et l'être de la nature. N'est-ce pas ? Il y a une belle chanson en hébreu qui dit « Ma'ichpat lo la yam she'a'etz u yarok ». Qu'est-ce que ça peut lui faire à la mer que l'arbre est vert ? Hein ?
Vous la chantez quand on va l'air ?
Non. Non. Ce n'est pas mon travail. Oui ?
Ça veut dire aussi, si on a choisi d'être dans ce corps, enfin, d'être positif, d'être dans ce corps, dans cette famille, etc., avant
ah oui, c'est pour ça donc que ce que je dis là, je reviens donc à l'enseignement que j'ai donné ici au nom de Rachid, c'est pas du magique. Ça veut dire que on doit chercher l'origine de la volonté de l'homme antérieurement à la nature. C'est-à-dire nous sommes une étincelle de liberté dans un monde de nature, ça nous vient d'ailleurs. C'est comme si nous étions un peu des extraterrestres. C'est pas de la magie, c'est de la logique. D'accord ? Donc c'est ça que Rachid a raison. Le positivisme fait abstraction de la dualité qu'il y a dans le monde. Il fait comme si l'homme n'était pas un homme. Non. Il fait... Hein ? Déterminé à l'avance. Donc c'est plus un homme. Disons, celui qui n'est pas libre, celui qui n'a pas de personnalité, n'est pas un homme. Non, il se sent libre, mais c'est une illusion. Alors, il sait scientifiquement qu'il a l'illusion d'être libre. Horrible. C'est-à-dire que c'est un monde infernal. Un monde dans lequel, finalement, il n'y a pas de sens à la vie. Vous voyez, c'est ça le problème. Je vous ai défini à l'avance. Non, mais ça s'explique. C'est-à-dire, si on comprend, par exemple, que le monde est créé par une volonté, par exemple, Dieu a voulu créer le monde, ça veut dire qu'il y a une source de volonté extérieure au monde. Et cette volonté peut très bien également trouver ses dérivés chez une partie des êtres, en tout cas, chez l'homme, par exemple. C'est-à-dire que si je me demande quelle est l'origine de ma volonté, eh bien la réponse, c'est que ma volonté est extraite d'une autre volonté. C'est-à-dire ma liberté a pour origine la liberté du Créateur. C'est très fort. Ça veut donc dire que je suis un être, on peut dire quasi divin. Ça explique pourquoi les hommes, parfois, ont tendance à se diviniser. Il y a des hommes qui se sont pris pour des dieux. Les pharaons, d'accord. Jésus. Il y a des hommes comme ça qui se sont pris pour des dieux. Les rois de France, non. C'est à deux droits divins, c'est autre chose. Non, c'est beaucoup plus cool. Ça va. Se prendre des dieux. Oui, alors Caligula, tout ça. Des gens qui se sont pris pour des dieux. Alors on dit que ce sont des fous. C'est pas vrai, c'est pas des fous. Ce sont des gens qui ont eu une extrême. Quelque chose, ils ont poussé au paroxysme le sentiment d'être autre chose que la nature. C'est tout. Alors évidemment, ça peut devenir de la folie. Oui, vas-y. Staline était un fou, mais un autre chose, un fou de la puissance. Il avait le désir de la puissance. D'accord ? Il ne se prenait pas pour un dieu parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il ne pouvait pas croire en lui-même. N'est-ce pas ? Oui, alors le culte de la personnalité, c'est une sorte de dérivé comme ça. Il y a également, je ne sais pas, une religion, par exemple, de la laïcité. Par exemple, la République française a développé une sorte de culte, une sorte de religion avec un culte, des cérémonies, etc., autour de la laïcité. Ça existe aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.